Bonjour, la librairie Mola et Moho s'associent sur un projet, la Positive Librairie. Cette librairie vise à réunir un ensemble d'ouvrages à impact. Elle va se matérialiser par une bibliothèque qui aura lieu à Moho, à Caen, mais également par une série de conversations, de conférences, d'échanges avec des auteurs à impact qui auront publié dans l'année et sur lesquels on va pouvoir rebondir et expliquer la société telle qu'elle est. La particularité de ce projet, la Positive Librairie, c'est que c'est un objet de curation, c'est-à-dire qu'on a demandé à des auteurs qui écrivent sur l'impact de recommander eux-mêmes un, deux ou trois ouvrages. Et c'est ces auteurs-là, aujourd'hui, que l'on invite sur ce plateau. Alors, aujourd'hui, j'ai Damien Routier avec moi.
Bonjour Damien. Arnaud.
Qui vient publier un donut pour tout changer aux éditions Vuber. Et si on rentre directement dans le sujet, est-ce que c'est un bouquin de recettes de cuisine ou est-ce que c'est un livre sur les entreprises et sur le changement de la société?
Un peu des deux, Arnaud. Merci de m'avoir invité. Le donut, en fait, pourquoi ce titre, un donut pour tout changer? Bah, c'est déjà pour revenir sur la théorie du donut qui a été théorisée par Kate Raworth. Et puis également donner des recettes aux entreprises pour transformer leur modèle d'activité et s'inscrire dans une visée régénérative de leur activité.
Comment est-ce qu'on peut le définir, en fait? Ça correspond à quoi? Et pourquoi cette image du donut?
Alors, pourquoi cette image du donut? En fait, ce qui s'est passé, c'est Kate Raworth, qui est une économiste anglaise, travaillait à l'époque pour l'ONG Oxfam sur les problèmes d'inégalité, puisque c'est le gros sujet d'Oxfam. Nous sommes en 2012 à cette époque-là. Et elle travaille également sur les frontières planétaires telles qu'elles ont été modélisées par le Stockholm Resilience Center. Donc, tu connais probablement le cadre des frontières planétaires.
Je connaissais les limites planétaires.
Ah,
il y a une différence entre les deux.
Non, c'est la même chose. C'est que en anglais, c'est planet boundaries, et il y a deux traductions possibles, frontières ou limites. Mais après, utilisons limite planétaire.
En rhétorique, c'est quand même, ça ne dit pas la même chose, exactement.
Exactement. Et c'est un des points qui est abordé dans le livre avec Arthur Delassus, qui est le créateur de la fresque des frontières planétaires. Et il explique pourquoi, lui, il préfère ce terme de frontières planétaires.
Donc on est en 2002.
Néanmoins, nous sommes en 2012.
Et
Kate Raworth, en fait, réfléchit à comment on pourrait modéliser un nouveau système économique qui prenne en compte ces frontières planétaires et tout en assurant un plancher social afin de réduire les inégalités au sein des populations. Et elle arrive avec cette image de deux cercles concentriques, et ces deux cercles concentriques forment le donut. Le cercle externe symbolise les frontières planétaires, tandis que le cercle intérieur, lui, représente le plancher social. Et donc, selon elle et sa théorie, le système économique doit se trouver à l'intérieur des deux, en deçà des frontières planétaires, mais contribuer aussi au plancher social.
Qu'est-ce que ça change par rapport au système actuel?
Ça change beaucoup de choses. Le système actuel, le système économique actuel, il est basé sur des préceptes de l'économie du 19e siècle, en fait. Va se baser beaucoup sur la domination de l'homme sur tout le vivant. Et quand je parle de l'homme, c'est l'humain. L'humain. En fait, je pourrais même parler de l'homme, le masculin, qui va exploiter, en fait, le travail non rémunéré, par exemple, des femmes, mais qui va exploiter également toute la population animale et puis les ressources naturelles. Et tout ça sans aucune contrepartie, exactement. Parce qu'on considère que toutes ces ressources-là sont infinies et gratuites. Et ça va être le fondement, en fait, de cette exploitation sans fin de ces ressources pour produire de la richesse. Puisque toute l'économie qui va être développée au niveau du 19e siècle, c'est une économie de croissance qui va chercher à faire croître le PIB autant que possible, alors, en dehors de toute considération de finitude des ressources.
On peut revenir sur le PIB.
Oui.
La notion de PIB, c'est quoi?
Alors, le PIB, c'est le produit intérieur brut. C'est l'indicateur phare depuis environ 100 ans. Il a été modélisé par un économiste qui s'appelle Simon Kuznets pendant la Grande Dépression aux États-Unis. Et en fait, il fallait un indicateur pour pouvoir suivre les évolutions économiques, voir un petit peu la reconstruction du pays. Et donc, il est arrivé avec cet indicateur qui fait la somme en fait de toutes les productions à l'intérieur du pays. C'est le donc produit intérieur brut. Et Simon Kuznets lui-même va dire attention, cet indicateur-là, il peut servir, mais néanmoins, il a beaucoup, beaucoup de défauts. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a complètement oublié cette partie de la phrase de Simon Kuznets et on a dit ok, on prend le PIB, ça va nous permettre de suivre l'évolution de l'économie et de s'assurer qu'on sort en fait de la récession. Et en fait, on a réutilisé cet indicateur pour justifier des choix économiques en disant ben, le PIB, plus le PIB grossit, plus les inégalités vont se réduire, puisqu'on va répartir la richesse, c'est la théorie du ruissellement. De la même manière, il faut que le PIB croisse pour réduire les pollutions. Et en fait, on se retrouve dans un système qui est complètement dépendant du PIB, donc qui va essayer de faire croître l'économie en permanence, alors même que la croissance de cette économie est responsable des inégalités et responsable également de l'exploitation des ressources naturelles qui nous mène à justement dépasser ces limites planétaires.
Donc c'est étonnant comme indicateur quelque part, parce que si je détruis, finalement, je crée aussi une forme de richesse.
Ah oui, absolument.
Donc j'alimente le PIB.
Ah mais oui, oui, tout à fait. Un bon exemple, ta maison brûle demain, il va falloir que tu la reconstruises, que tu rachètes des choses. Donc en fait, c'est un très très bon élément pour le PIB. Puisque c'est quelque chose qui va se nourrir de ta consommation. Et la consommation, elle est principalement basée sur des ressources naturelles primaires. C'est-à-dire qu'actuellement, on a un taux de circularité des ressources naturelles qui est d'environ 7%.
C'est-à-dire, ce qui signifie ?
C'est-à-dire que 7% de ce que tu consommes provient d'objets qui ont déjà été créés. C'est-à-dire que ça va être réutilisé, recyclé, etc. Mais ça veut dire aussi que 93% vient de ressources complètement vierges, donc qui ont été extraites de la terre, que ce soit des stocks, par exemple les hydrocarbures, des minéraux, etc. Ou alors des ressources qui, elles, sont renouvelables, donc on va dire du bois, de l'eau, etc. Néanmoins, ce qu'on voit et ce qu'on observe avec les limites planétaires, c'est que ces cycles sont perturbés. Donc tout ce qui est renouvelable va l'être de moins en moins. Voilà. Et donc en fait, ta consommation, elle, elle va puiser dans soit des stocks, ça c'est ressources finies, les hydrocarbures, les minéraux, ou des ressources renouvelables, mais qui ont de plus en plus de mal à se renouveler.
En fait, si je comprends bien, j'essaie de trouver une citation, alors je ne sais pas si tu l'as en tête, c'est de Jean-Baptiste Say, en 1803, tu l'as écrit.
Oui, 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 tout à fait.
Et j'essaie de vous trouver la citation parce qu'elle m'a vraiment interpellé. Et j'ai l'impression, mais je suis naïf sur le sujet, que c'est l'un des fondements de toute cette théorie du donut. C'est-à-dire qu'on part du principe que la ressource naturelle est à la fois illimitée,
oui,
et que, en fait, on peut en faire absolument ce qu'on veut. Donc on est plus encore que sur du Descartes qui disait l'homme au-delà de tout, mais là, on est vraiment sur une formulation qui dit vous pouvez utiliser tant que vous le souhaitez la mer, la terre, en fait,
oui,
parce que c'est une ressource infinie. Mais on est en 1803. Le gars, il écrit ça en 1803.
Oui, parce que en fait, je crois que la citation, c'est les ressources naturelles sont infinies, sans quoi nous ne les obtiendrions pas gratuitement.
Oui, c'est ça.
C'est ça,
exactement.
Et oui, et ça traduit tout, en fait. Ça veut dire que, servez-vous, on est là, et l'homme, en fait, est maître de la terre, il peut se servir à l'infini. Et de toute façon, c'est pas grave, c'est infini. Donc c'est gratuit. Et c'est là, d'où là, que se crée, en fait, notre système de production qui est basé sur l'extraction, sur le linéaire, en fait, contrairement à une économie plus circulaire. Donc le linéaire, c'est on extrait, on produit, on distribue, on vend, on jette. Et ça, avec des cycles de vie de plus en plus courts. Très bien. Et puis volumique. Il faut pouvoir produire dans des grands volumes. Donc grand volume, ça veut dire aussi beaucoup de d'intrants, quoi, de matières premières à mobiliser pour alimenter ce système de production.
Donc ça, je reprends parce que moi, ça m'a vraiment marqué dans l'ensemble. Ouais. Alors, je ne vais pas simplifier l'ensemble de l'ouvrage, mais on est en 1803, donc avant l'ère véritablement industrielle. Et ce monsieur annonce ça et on est dans ce moment en fait, où on se dit, ok, ressources infinies, aucune responsabilité de l'homme, l'homme au-dessus de tout.
Oui.
À partir de là, on met en place le système que tu présentes de production. On est en 2024. Et encore, sans aller trop loin, on peut aller en 1970, le rapport Meadows.
Oui, tout à fait.
Je veux bien que tu le redéfinisses. Ouais. C'est quand même un électrochoc. Normalement, ça aurait dû être un électrochoc dans le monde. Ça n'a pas été trop le cas. Enfin, c'est enclenché des choses. Mais on est en 1970, rapport Meadows.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il dit?
Alors, on est en 1972, et effectivement...
J'ai toujours...
Ouais, ouais. Mais c'est bien parce qu'il y a une concordance des dates, en fait, ça donne des chiffres ronds. Mais néanmoins, 1972, on a le rapport Meadows, qui est édité par des scientifiques du MIT. Et en fait, eux, ce qu'ils ont, c'est une modélisation informatique de l'évolution du monde avec différents critères, dont la production industrielle, les pollutions, la population, la production agricole et les ressources naturelles mobilisées. Et en fait, ils se disent, ok, tout ça, c'est interdépendant. On arrive sur une approche très systémique et on se dit, bah, en fait, la population va dépendre de la production agricole. Si on n'arrive pas à la nourrir, ça va s'effondrer. Et de l'autre côté, elle va être limitée par les pollutions également. Et puis la production industrielle, elle, va permettre aussi d'assouvir des besoins de la population. Enfin bon, en tout cas, tout ça, c'est modélisé sous forme d'un système complet. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est se dire, OK, on a des tendances actuellement de production agricole, on a des tendances démographiques, on a des tendances de pollution. On rentre tout ça dans l'ordinateur et puis on voit un petit peu comment ça évolue. Et ce dont ils se rendent compte, c'est que dans la majorité des scénarios, en fait, la population mondiale commence à décroître à partir de 2050. Et de manière assez sévère. Ils font OK, donc ils essaient d'arranger les différentes tendances. Et ce dont ils se rendent compte, en fait, c'est que le seul scénario où la population mondiale arrive à se maintenir à peu près, donc on n'a pas des morts par millions, voire milliards, c'est quand la production industrielle, elle, décroît. Et ça, c'est le rapport Meadows. Et ce que tu dis, c'est intéressant dans le sens où ça aurait dû créer un électrochoc, puisqu'on se dit, bah ok, on parle du futur de l'humanité. Et le rapport Meadows, en fait, c'est un grand succès de librairie que je souhaite à la librairie Mola. C'est 30 millions d'exemplaires. Et c'est plus d'une cinquantaine de traductions. Donc c'est quelque chose qui a vraiment un retentissement mondial. Et ce qu'il y a de très intéressant, je trouve, avec ce rapport Meadows, c'est qu'il y a un vice-président de la Commission européenne qui le lit, qui s'appelle Sico Mansholt. Et on va, il y a un livre qui s'appelle « La lettre Mansholt » qui reprend en fait sa réaction à chaud. Et il adresse cette lettre au président de la Commission européenne en disant bah, « voilà, moi, c'est ce que j'ai lu et franchement, ça m'a fait peur. » Et pourtant, Sico Mansholt, c'est quelqu'un qui... c'est un agriculteur néerlandais à la base et qui a défini un peu la politique agricole commune. Et autant dire que la politique agricole commune dans les années 70, c'est un modèle très productiviste. Okay, on n'est pas là pour s'embêter avec l'histoire de glyphosate ou quoi que ce soit. C'est pas du tout l'air du temps. Rose. On est vraiment sur de la grosse exploitation. C'est ça que le modèle favorise. Et puis, énormément de production, avec énormément d'intrants chimiques. Et lui, pour le coup, il est effaré. Il se dit, mais on va droit dans le mur. Donc, effectivement, il y a eu des retentissements. Et si tu veux, il y a eu des réactions très fortes par rapport à ça. Néanmoins, On regarde 50 ans après, en 2012, quand Kate Raworth modélise Donut Economics, on est exactement dans la même logique. Rien n'a changé véritablement entre-temps.
Donc, si je résume la chronologie, on est donc en 1803 où, OK, on se dit, on n'a pas eu l'overview effect, on ne sait pas à peu près, on ne voit pas la planète dans l'espace, on peut avoir cette inconscience-là des choses, et on pose ce principe de la ressource infinie.
Oui.
1970, il y a eu quand même, on parle du rapport Meadows, il y a eu d'autres choses qui se sont passées en même temps, il y a eu le Printemps silencieux qui a été un ouvrage qui a été publié, où on commence à dire, attention, les pesticides sont en train de détruire tous les oiseaux, Claude Lorius qui fait la connexion entre les carottes glaciaires et qui commence à voir en fait qu'il y a la répercussion de l'homme et de l'évolution de l'homme sur le climat. Donc il y a quand même des choses qui se passent à ce moment-là.
Oui.
On peut s'attendre à un électrochoc, il se produit pas, mais on peut dire qu'à ce moment-là il y a une prise de conscience.
On va dire oui, tout à fait. Oui, absolument. Les mouvements écologistes en fait commencent en fait aussi à prendre de plus en plus d'ampleur au sein des sociétés occidentales. Oui, clairement. Néanmoins, ça n'influe pas du tout sur le système économique. Puisque le système économique, lui, il est toujours sur une course à la croissance. D'ailleurs, il y a un très bon élément qui permet d'illustrer ça. On parle souvent du jour du dépassement. Je ne sais pas si... le jour du dépassement, pour faire très simplement, c'est comment la planète arrive à renouveler, à se renouveler par rapport à la consommation humaine de ses ressources. Okay. Chacune et chacun d'entre nous exerçons une pression parce que nous prélevons de l'eau, nous avons besoin de bois, enfin, plein de choses au niveau de la planète. Okay. Et ça se renouvelle plus ou moins vite. Donc normalement, dans un monde parfait, ce serait équilibré, la planète arriverait à renouveler ces ressources-là en un an. Pour une consommation annuelle. En 1970, on est à cet équilibre-là. On arrive à un jour du dépassement qui est modélisé environ au 31 décembre. C'est-à-dire que du 1er janvier au 31 décembre, on arrive à équilibrer entre notre consommation et ce qui arrive à être renouvelé.
On est sur la ligne de crête.
Ça va, tout va bien, à peu près. Et avec de fortes disparités, hein, bien entendu. Puisque forcément, des pays beaucoup plus développés exercent une pression beaucoup plus forte sur les ressources naturelles, tandis que des pays moins développés exercent une pression moins forte. Mais néanmoins, en moyenne, on est au 31 décembre, 30 décembre. Eh bien, on arrive là, 50 ans plus tard, nous sommes en fait globalement, en moyenne, au début août, sur l'intégralité de la planète. C'est-à-dire qu'à partir de début août, on vit à crédit. On vit à crédit sur des ressources qui ne vont pas se renouveler.
Ok, mais ça veut dire quoi, on vit à crédit?
C'est-à-dire que ça, c'est une dette que nous laissons d'année en année filer et qui, un jour, et de toute façon, on le paye déjà dès maintenant, on le paye par... il y a quelques jours, on a eu des inondations monstres en Espagne qui ont contribué à plus de 200 morts. Hein. Et ça, ce sont des événements qui sont de plus en plus extrêmes et de plus en plus fréquents. Et tout ça, c'est lié, en fait. C'est lié parce que on a ce réchauffement climatique, on a aussi la perturbation du cycle de l'eau, on a la perturbation des cycles naturels du phosphore et de l'azote, et tout ça forme un tout, une espèce de bombe géante dont la mèche arrive et elle pète, en fait, de manière disparate, mais néanmoins, la fréquence est de plus en plus fréquente. Et l'intensité est de plus en plus fréquente également. Enfin, est de plus en plus forte, pardon. Tout ça pour dire que, en 50 ans, en fait, en 1970, on était à l'équilibre. 50 ans plus tard, on est complètement en déséquilibre. Et sur certaines parties du monde, aux États-Unis, on est au mois de mars. Et je crois qu'au Qatar, Luxembourg, on est au mois de février. Enfin, on arrive sur des systèmes qui sont complètement déficitaires et qui n'ont plus aucun lien avec la planète.
Avec la réalité du monde dans lequel on vit.
Exactement.
Et donc, en 1970, on peut considérer qu'il aurait dû y avoir cette espèce de prise de conscience qui peut prendre du temps. Donc, à la limite, on peut arriver jusqu'aux années 2000. On se laisse un peu de marge.
Oui.
Voilà. Sauf que 2012, la théorie de Donut est posée,
oui,
et donc enclenche, enfin en tout cas interroge sur de nouvelles manières de penser l'entreprise et de nouvelles manières de penser l'économie.
Oui.
Et pourquoi ça se fait pas?
Parce qu'on est resté dans le système en fait du PIB qui drive toute l'économie. Le système économique est resté sur le principe que une économie qui va bien, c'est une économie qui grossit, qui croît. Mais et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que la croissance économique va elle-même alimenter les inégalités sociales et va aussi alimenter l'exploitation de la terre. Donc, en fait, quand on est sur du développement durable, de la croissance verte, etc., en fait, ce sont des choses qui ne marchent pas, mais du fait même de leur conception, puisqu'elles ne remettent pas en cause l'idée même de la croissance économique. Et la théorie du donut n'est pas décroissantiste, hein, c'est pas ça. C'est de dire l'indicateur PIB est mauvais pour mesurer la santé d'une économie. Et à la place de ça, ce que propose Kate Raworth, c'est de favoriser une économie beaucoup plus distributive, c'est-à-dire arrêter cette course à l'efficacité des chaînes d'approvisionnement, par exemple, parce que là, on ne fait que créer des points de rupture. Et ça, on en a bien conscience maintenant. On l'a vu régulièrement. Quand il y a un bateau coincé dans le canal de Suez, ça crée un désordre monstrueux au niveau mondial. On parle d'un bateau. C'est incroyable. Des guerres aussi, quand il y a des conflits qui éclatent dans différents coins du monde, c'est pareil, ça brise des chaînes d'approvisionnement logistique. Elle, ce qu'elle dit, non. Essayons d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus distributif. Distributif dans les chaînes d'approvisionnement, mais distributif aussi par nature pour éviter cet accroissement des inégalités. Okay. Donc avoir l'entreprise qui agisse comme un outil de distribution de la richesse. Et de l'autre côté, elle parle aussi d'économie régénérative, c'est-à-dire de se dire, en fait, c'est pas suffisant de se dire on va faire moins de mal, on va réduire nos impacts négatifs. L'entreprise régénérative, elle, son but, ça va avoir des impacts nets positifs. Donc, de restaurer de la nature, de contribuer en fait à la restauration des cycles naturels. Et c'est ça, en fait, dont on parle. Et les deux additionnés, c'est ça l'économie du donut. C'est ça, en fait, les deux objectifs que devraient suivre les entreprises.
Alors, pour bien... je reviens sur quelques points pour bien comprendre. Un, tout à l'heure, en introduction, tu as parlé des limites, des frontières planétaires. Ouais. Je veux bien qu'on revienne dessus. C'est quoi les frontières planétaires? Déjà.
Oui. Ben alors, la première des frontières planétaires que tout le monde connaît, puisqu'on en parle tous les jours, c'est celle du réchauffement climatique. Et cette frontière-là, en fait, elle est définie par la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, l'effet de serre est complètement naturel. Sans ça, il n'y aurait pas de vie sur Terre. C'est ce qui nous permet en fait de garder de la chaleur qui provient du soleil. Voilà. Et donc on a une couche de gaz, cette couche de gaz un peu comme un gros nuage, on va dire, nous permet de garder de la chaleur. Sans ça, il ferait en moyenne 33 degrés plus froid qu'il ne le fait actuellement. Donc autant dire que la grande partie du globe serait gelée toute l'année. Et c'est pas du tout un terrain fertile pour le développement de la vie. Donc on a besoin de cet effet de serre. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que depuis l'ère industrielle, en fait, hein, depuis Jean-Baptiste Say, les concentrations de CO2 et d'autres gaz à effet de serre ne font qu'augmenter dans l'atmosphère. Et donc ça, c'est ce qui cause le réchauffement additionnel, l'effet de serre additionnel, qui se traduit par ce réchauffement de plus 1,2, 1,3, 2 degrés. Ce sont les objectifs dont on entend souvent parler par rapport aux accords de Paris. Donc ça, c'est la première frontière limite planétaire qui est dépassée maintenant, hein, depuis un petit moment. Et puis on va avoir d'autres limites planétaires. Par exemple, l'utilisation des ressources en eau, que ce soit de l'eau salée, de l'eau douce. Ben, ça, c'est pareil, en fait. Plus on tire dedans, moins on arrive en fait à avoir ce cycle de l'eau qui va pouvoir continuer à alimenter nos différentes activités, notre alimentation, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose, c'est une frontière qui vient d'être dépassée. Et puis on va avoir des cycles, d'autres cycles, un peu plus techniques, comme celui du phosphore et de l'azote, qui sont nécessaires à la croissance des plantes. Mais si on arrive à avoir des concentrations trop fortes en phosphore et en azote, on va aussi développer des plantes qui ne sont pas du tout souhaitables. C'est le phénomène des algues vertes en Bretagne, qui elles-mêmes rejettent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ces frontières planétaires, donc elles sont définies de manière individuelle, mais elles interagissent toutes entre elles. Et donc, on peut continuer comme ça, mais... L'acidification des océans, bien sûr. Alors, l'acidification des océans, ça, c'est... En fait, elle est causée aussi par l'augmentation des gaz à effet de serre, puisque l'océan est un puits naturel pour les gaz à effet de serre, pour le CO2. Mais ce faisant, il va s'acidifier. Et ce que ça pose comme problème, c'est que ça empêche la calcification des coccolithophores. C'est la base de la chaîne alimentaire marine.
D'accord.
Donc, sans eux, il n'y a pas de petits crustacés, il n'y a plus de petits poissons, il n'y a plus de gros poissons. Et puis, in fine, il y a aussi des milliards de personnes dans le monde dont l'alimentation repose essentiellement sur les produits de la mer. Bah, donc, il n'y aura plus de nourriture pour eux non plus. Et ça crée en fait, des déplacements de population. À partir du moment où tu ne peux plus t'alimenter correctement, forcément, ton instinct de survie va te commander d'aller voir ailleurs, potentiellement de déclencher des guerres pour l'accès aux ressources. Et puis, quand les guerres se déclenchent, ce qu'on recherche aussi en tant qu'être humain, c'est une certaine sécurité pour sa famille. Ça va être de migrer ailleurs, dans des endroits qui sont encore épargnés par les guerres. Donc, en fait, c'est vraiment ça qu'il faut voir, c'est que...
C'est systémique.
Mais oui, c'est que rien... Toutes les frontières planétaires sont liées. Et ce n'est pas la planète, les humains d'un côté. Non, c'est qu'on vit tous sur ce vaisseau spatial. Il y a souvent cette image-là que le vaisseau spatial qu'on connaît, qui permet de supporter 8 milliards de personnes et qui voyage depuis des milliards d'années, sans rien demander, c'est la Terre. Et il y a cette... C'est un petit peu ce que disait Jean-Baptiste Say, c'est que finalement, on s'abstrait complètement de la réalité du milieu dans lequel on vit. Mais ça ne marche pas comme ça.
En fait, c'est ça qui est assez fou. On s'est trompé, on s'est bien planté. Enfin, Jean-Baptiste Say, ouais. Je suis désolé pour lui.
Ah bah oui, tout à
mais
fait.
Mais il s'est planté dans son analyse. Sauf qu'on, par confort ou par sans se poser de questions, on a bâti notre société sur cette vérité.
Oui.
On a aujourd'hui, on est dans une séquence depuis les années 70 où on comprend que les limites planétaires ou les frontières planétaires sont évidentes. Personne ne peut dire à un moment que le système d'aller puiser davantage de la ressource pour pouvoir fabriquer, vendre, consommer, jeter fonctionne. Je veux dire, à un moment, je veux bien qu'on refasse une conférence avec quelqu'un sur qui m'explique comment ça ne peut ne pas être le cas, mais a priori, c'est le cas. Et donc là, La dernière étape, là, celle qui... Et je vois rien de mormon là-dedans, si je peux me permettre. Je vois rien d'éco-terroriste ou de bisounours. J'entends pas, en tout cas, quelque chose qui est de l'ordre d'un discours presque politique. On n'est pas du tout là-dessus, en fait.
Non.
On est sur quelque chose qui est très rationnel, évident même.
On est quelque chose qui se base, en fait, sur des faits, hein. Et puis, sur de la physique, quand on parle de réchauffement climatique, on parle de molécules dans l'atmosphère. C'est difficile, en fait, d'aller contre. Et puis après, comme tu disais, en fait, les carottes de glace, c'est aussi des bons indicateurs pour savoir, OK, quelles étaient les concentrations dans le passé, quand on ne les mesurait pas encore. Maintenant, on les mesure de manière très systématique. Ce n'était pas le cas dans le passé. Néanmoins, on a toutes ces petites bulles d'air qui nous renseigne sur quelles étaient les concentrations de CO2 dans l'atmosphère il y a des milliers, voire des millions d'années. Et on arrive à retracer en fait l'oscillation. Et il y a une vraie respiration de la Terre. Ça, c'est indéniable. Et il y a beaucoup de personnes qui se réfèrent à ça en disant « mais c'est un cycle naturel, etc. » Mais un cycle naturel qui oscille comme ça, très bien. Un cycle naturel qui fait ça et ça, ça n'a rien à voir. Et là, on retombe sur la science, tout simplement. Après, ce que je voulais dire par rapport à Jean-Baptiste Say qui s'est trompé, bon, c'est toujours facile de juger avec 200 ans. Oui, effectivement, il est le fruit de son époque.
Exactement.
Voilà. Et je pense que ça aurait été très difficile à cette époque-là de concevoir aussi que l'utilisation des ressources naturelles, en fait, elles n'étaient pas illimitées. C'est l'époque qui veut ça. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que cette croissance, elle a bénéficié à certains et certaines. Parce que la médecine, elle s'est développée grâce à ça. Les transports se sont développés grâce à ça. Enfin, il y a beaucoup de choses, hein, en fait, qui sont liées à la croissance. Ce dont on se rend compte aussi maintenant, c'est que passer un certain stade de développement, en fait, la croissance n'apporte plus grand-chose. Mmh. Et même, en fait, va commencer à asservir l'humanité plutôt que la servir. Et ça, c'est un petit peu ce que raconte Ivan Illich hein, dans La Convivialité. C'est ça, c'est qu'on crée une superstructure qui va demander, en fait, qu'on s'y investisse un peu corps et âme pour la maintenir.
On alimente la bête.
Voilà, c'est ça. Et on ne fait plus que ça. C'est alimenter cette bête sans se dire, mais en fait... à quoi elle nous sert actuellement. Et c'est ça qui est un petit peu tragique, en fait, dans notre époque.
Mais je voulais vraiment insister dessus, parce que, sur toute cette séquence-là, on va aborder maintenant la partie plutôt solution.
Ouais, ok.
Mais je voulais vraiment insister là-dessus, parce que ça reste quelque chose qui peut être un peu flou, assez caricaturé. J'ai cité deux citations. Alors que c'est quand même... C'est scientifique, c'est factuel. Il n'y a pas de jugement derrière. Jean-Baptiste Say, il correspond, c'est comme tu dis, le fruit de son époque. Dans les années 70, même à cette époque-là, à la limite, on ne peut pas s'attendre à « mon Dieu, arrêtons tout et changeons le logiciel ». C'est compliqué. Mais on est en 2024 aujourd'hui.
Ouais.
On est en 2024. On est, pour vous dire, on est le 6 novembre 2024. Moi, je n'ai pas très bien dormi, personnellement. Les élections américaines ont choisi un candidat qui, à mon sens, pas tout à fait dans cette dynamique-là et sans jugement particulier sur le personnage, que je me retiendrai, mais en tout cas, ça ne dit pas, dans la discussion qu'on a aujourd'hui, ça ne dit pas une transformation du modèle. Et en 2024, on sait, donc on est plus responsable que Jean-Baptiste Say à son époque, on sait, on connaît, on a des réticences, et pourtant, et c'est là la question, on a des solutions, et je voudrais qu'on creuse ces solutions, parce que pour beaucoup d'entre nous, parce que le sujet paraît insurmontable, parce que c'est systémique, on ne peut rien y faire. On ne peut pas changer les choses. C'est trop complexe.
Alors,
et ça, c'est peut-être une clé, ce que tu as, cette théorie.
Oui, oui. Alors, effectivement, je pense que la théorie du donut apporte quelque chose de nouveau. Et je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire à propos de notre cher ami Donald Trump. Où là, en fait, on a un pôle politique qui nous semble être complètement figé et qui manifestement, on peut avoir de très bonnes surprises, mais j'en doute fortement, qui n'ira pas vers le donut, clairement. Et ça me rappelle, en fait, ce concept du triangle de l'inaction de Pierre Perretout. Voilà, où on se dit, grosso modo, ce triangle, il a trois sommets. Il a le politique d'un côté, il a les entreprises de l'autre, et puis les individus. Et puis chacun se pointe un petit peu du doigt en se disant « mais non, mais en fait, si l'autre ne bouge pas, moi, j'ai aucune chance de bouger. » Et donc, les politiques disent « si les entreprises ne bougent pas, moi, franchement, honnêtement, c'est pas moi qui... L'État ne peut pas tout, ou quelque chose dans le genre. Si les citoyennes et les citoyens n'ont pas voté pour des partis ou des programmes qui mettent ça au cœur de l'action, bah, écoutez, vous avez ce que vous méritez. Et puis, de la même manière, les entreprises disent, mais non, mais c'est aux consommatrices, aux consommateurs de m'inciter à produire.
Et si les Chinois ne bougent pas.
Et
si
voilà, oui, on peut rajouter la dimension internationale. Enfin bon, bref, en tout cas, si on rentre dans ce... dans ce polygone de l'inaction, bah, il ne se passera jamais rien. Donc là, moi, le but avec ce livre, c'est de dire, OK, les entreprises, elles, eh ben, elles ont des moyens de bouger, en fait. Elles n'ont pas besoin d'attendre la réglementation, elles n'ont pas forcément besoin non plus d'attendre les consommatrices et les consommateurs, parce que ça ne viendra pas forcément de là. Mais par contre, elles, elles ont une responsabilité et bah, il faut la saisir, en fait. C'est ça. Et si on, si on se dit convaincu que le système actuel nous mène droit dans le mur, et moi, je demanderais à... Tu vois, la charge de preuve, elle est complètement inversée, quoi. Oui. C'est que le système actuel nous mène droit dans le mur. Et ça, on a énormément d'informations pour le caractériser. Maintenant, bah, OK, si c'est ça... quels sont les avantages à garder ce système-là? Ben, en fait, moi, je ne sais pas. Hein, mais je trouve que aussi, être chef d'entreprise, c'est compliqué. Enfin, c'est dur, c'est un investissement incroyable. Mais le faire en disant qu'on contribue à aller dans le mur, c'est encore pire. Donc, moi, avec ce livre, j'essaie de donner une méthode de réflexion et de transformation du modèle d'activité. Et en fait, alors, c'est facile et difficile à la fois. C'est difficile parce que ben, on est toujours dans ce système économique qui va promouvoir la croissance, qui va promouvoir les résultats financiers à très court terme. Et oui, ça crée énormément de pression sur les directions d'entreprise. Et puis, c'est facile, en fait. C'est facile parce que c'est comme un... espèce de jeu, hein. C'est quelque chose d'assez factuel. C'est se poser, prendre le temps pour réfléchir à ses impacts positifs, ses négatifs, et surtout analyser les risques qui pèsent sur le modèle économique actuel. Ce qu'on voit, enfin moi, ce que j'observe et ce qui est clairement défini aussi par le World Economic Forum, c'est qu'on a une multitude de risques qui pèsent sur l'économie. Ce sont des risques environnementaux, sociaux, géopolitiques, etc. Et tous ces risques-là sont interdépendants. C'est-à-dire qu'une entreprise qui ne se pose pas la question au risque à laquelle elle est exposée, bah dans 10 ans, c'est sûr, elle n'existera plus.
D'ailleurs, il y a eu un chiffre assez intéressant là-dessus. La longévité d'une entreprise au 19e siècle, à peu près, je crois, si j'ai les chiffres en tête, était de l'ordre de 95 ans, à peu près. Oui. Elle a été divisée par 4.
Oui.
Là. Donc, les entreprises actuelles ont des durées de vie, parce que soumises à un contexte changeant et extrêmement réduit.
Oui, exactement. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment lié à l'augmentation, en fait, de l'intensité et de la fréquence des risques. Voilà. Donc, se poser la question, OK, à quel risque je suis soumis, et aussi réfléchir à moi aussi, quel est l'impact que j'ai vis-à-vis de mon environnement social, écologique. Ça, c'est vraiment cette première étape qui est proposée, c'est OK, se poser, voilà, réfléchir 2 secondes.
Ouvrir les yeux, et juste ouais. Pas avoir peur.
Ouais, c'est ça.
Un moment de réveil.
et aussi accepter de juste pas faire ça tout seul, ouais. Mais de le faire avec différentes parties prenantes de son entreprise. Des personnes qui sont arrivées récemment, des jeunes, des étudiantes, des étudiants, des personnes aussi qui viennent des ONG, et puis des fournisseurs aussi, des clients, savoir un petit peu prendre le pouls de l'ensemble des communautés, en fait, qui sont au cœur de l'entreprise, qui dépendent de l'entreprise. Et à partir de là, en fait, il va y avoir une phase d'idéation. Se poser les... OK, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Et là, il faut vraiment insister sur le terme de trajectoire, parce qu'on ne peut pas tout changer d'un coup. Et ça, faut être aussi très réaliste et pragmatique. C'est que le monde dans lequel nous évoluons, il bouge, mais il bouge vite à certains endroits, c'est-à-dire sur le plan environnemental et social. On a de plus en plus de tensions, hein. Mais il bouge très lentement du côté business. Donc, à un moment, il va falloir essayer de réconcilier tout ça. Et je trouve que ce qui est intéressant dans cette notion de trajectoire, c'est de se dire, on va pouvoir faire des choses un petit peu à la marge au début, mais de garder cette ambition de distribution et de régénération. Donc, avoir des petites étapes qui permettent d'enclencher la machine, d'alimenter la réflexion et d'aller toujours de plus en plus loin.
C'est-à-dire ne pas se mettre la pression sur... parce que c'est assez terrifiant, hein. Ne pas se mettre la pression sur un changement de modèle radical. Et on reviendra sur des entreprises qui ont vraiment changé les choses et qui ont eu un impact. Mais ne pas se mettre cette pression-là, plutôt prendre le chemin et se dire que chaque chose qui peut changer, à condition qu'on se donne cette ambition-là, c'est une bonne chose. Ça alimente et ça crée un mouvement ou des mouvements autour de nous qui alimentent l'ensemble. C'est ça ce que...
Exactement. Et ça alimente même au sein de l'entreprise la réflexion sur les prochaines étapes.
Il y a un risque d'écroulement de mon entreprise. Est-ce que quand je fais ça, je peux pas me dire, oula, en fait, je vais mettre tout le monde autour de la table, ils vont massacrer le truc là, et ils vont me dire que c'est pas bien ce que je fais, et en gros, je vais me retrouver démuni.
Je vais te dire, si c'est le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui allait pas à la base. Hein. Donc c'est pas ça qui va révéler que le modèle n'est pas viable. C'est que le modèle n'était pas viable, tout simplement.
Et c'est peut-être mieux, justement.
Et c'est mieux de le savoir, hein, parce que ça permet aussi d'agir. Le plus gros risque, c'est vraiment l'immobilisme. Et où c'est l'aspect, la contrainte réglementaire, et j'essaie d'être dans les clous, parce que je ne veux pas aller en prison. Je fais un petit trait d'humour, mais juste de cocher la case et de dire, voilà, ça c'est fait, on arrête d'y penser, et puis on se focalise encore sur le très court terme, etc. Non, je pense qu'il faut vraiment prendre de la hauteur par rapport à ça. Encore une fois, effectivement, c'est toujours un risque de donner la parole à quelqu'un, hein. Mais néanmoins, au moins cette parole aura été exprimée. Et ça permet aussi de réaliser certaines choses. Donc, s'il n'y a pas de courage, désolé, mais en fait, c'est terminé. Ça ne passera pas. Il faut juste avoir le courage de commencer, d'enclencher cette réflexion. Ça ne veut pas dire la faire n'importe comment. Il faut la structurer, et c'est tout l'objet en fait de ce livre, c'est de structurer cette réflexion, et de structurer aussi la prise de décision. Mais néanmoins... ça demande du courage.
Et de suivre un chemin.
De suivre un chemin, oui, tout à fait.
Est-ce qu'il y a des entreprises phares qui sont devenues régénératives ou qui appliquent la théorie du donut, ou peut-être pas en totalité, mais est-ce qu'il y a des structures qui sont dans cette dynamique-là et dans lesquelles on pourrait avoir cette curiosité de regarder ce qu'elles font.
Alors, je voudrais déjà mettre quelque chose au clair très rapidement. C'est que le donut en fait est structuré autour d'une communauté qui s'appelle le Donut Economics Action Lab, qui édite des outils. Et un des principes de base, c'est de dire il n'y a pas d'entreprise compatible donut.
Ok,
voilà,
donc, ça très
c'est,
bien.
C'est posé.
Fin de conférence, non, mais c'est important. Ok, lâchez prise.
Voilà, d'accord. Il n'y a aucun label qui dit. Ok, cette entreprise, on la tamponne, elle est donut et c'est parfait. Non, ça n'existe pas puisque c'est un objectif et c'est quelque chose en fait qui est évolutif. C'est-à-dire qu'il y aura toujours quelque chose de mieux à faire. C'est pas un état fini qu'on souhaite atteindre. C'est vraiment un chemin que l'on souhaite sur lequel on souhaite progresser. Donc il n'y a pas de sommet de cette montagne. C'est une montagne qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Après, concernant les entreprises, en fait, il y a plein d'initiatives qui existent et qui portent des noms très différents, mais néanmoins qui visent exactement la même finalité. En France, on a la chance d'avoir la Convention des entreprises pour le climat. Et ça, c'est un parcours génial qui permet à des entreprises, justement de réfléchir sur leurs impacts, sur leurs risques, sur leurs enjeux, et de définir en fait leur feuille de route vers l'entreprise régénérative, à visée régénérative. Mais tu remarqueras qu'on utilise le terme de visée régénérative. Okay, c'est très important. Et c'est pour ça aussi que j'insiste sur le terme de trajectoire. Okay,
et ça, de chemin. Ça,
voilà, de chemin, de tout ce que tu veux. Mais c'est quelque chose, c'est du mouvement. Ce n'est pas quelque chose de statique. Donc, des entreprises régénératives, je vais être très clair. Si on parle régénératif dans le sens donut du terme, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas.
Voilà. Par contre, des entreprises qui se mettent en route et qui commencent leur chemin, ça, il y en a. Donc, si vous allez sur le site de la CEC, vous avez 650 fiches de feuilles de route d'entreprises qui ont fait les parcours et qui vont détailler en fait les engagements dans lesquels elles se sont engagées. Et donc, ça passe par des changements de modèle qui sont très forts. Pour rester sur de l'exemple un peu franco-français qui puisse parler, et surtout des exemples très industriels. Parce que souvent, on se dit, ouais, le service, c'est plus simple et tout ça. L'industrie, c'est compliqué, ça pique un peu. OK, on peut prendre l'exemple de Nexans. Nexans, c'est une entreprise, un leader mondial sur le câblage pour les télécommunications, le transport d'électricité, etc. Ce que eux, en fait, ils avaient 17 000 références clients. En fait, dans une logique classique, c'est-à-dire, moi j'ai 17 000 clients, demain j'en veux 20 000, après-demain j'en veux 25 000, et c'est pas du tout ça en fait qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont redescendus de 17 000 à 4 000 clients pour se dire, OK, de toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir des clients, mais des clients de qualité. Donc, on va se recentrer sur ces 4 000-là. Et puis, de l'autre côté, ils se sont rendus compte, ils sont très dépendants de la ressource cuivre. Et la ressource cuivre, un petit peu, hein.
On revient sur les ressources.
C'est
pas infini.
Elles sont finies, les ressources cuivre, et en plus, elles sont de plus en plus utilisées parce que face à l'électrification, puisque les besoins d'électricité ne vont que en croissant. Donc, ils se sont dit, comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on gère? Est-ce qu'on ouvre des nouvelles mines un petit peu partout dans le monde pour aller sécuriser nos approvisionnements en cuivre? Ou est-ce qu'on se repose sur le cuivre qui a déjà été extrait? Et ce qu'on demande à nos clients, c'est déjà de nous ramener de la matière pour pouvoir leur fournir des nouveaux produits à base de cuivre, de matière qui a déjà été utilisée. Donc, c'est vraiment dans cette logique-là qu'ils sont allés là-dessus. De la même manière, on parle pas mal de Michelin, pour des mauvaises raisons actuellement, mais néanmoins, ce qu'ils se sont dit, c'est comment est-ce qu'on arrive en fait à fiabiliser, à avoir un nouveau modèle d'activité. Ils ont commencé à mettre des capteurs en fait pour la pression des pneus dans les poids lourds. Okay, et en fait, ça c'était un modèle pour essayer de fiabiliser les trajets poids lourds. Et à partir de là, ils se sont dit, OK, ce qu'on pourrait faire, c'est anticiper l'entretien des pneus et donc avoir des pneus qui durent beaucoup plus longtemps. Donc là, en fait, on se dit, OK, si on est dans une logique purement croissance, classique, extractiviste, volumique, on se dit, je vais vendre moins de pneus. Enfin, ça n'a aucun sens. Et donc, c'est de se dire, ce qui nous intéresse, c'est finalement, c'est d'assurer le service de mobilité, de permettre de contribuer à ce service de mobilité en toute fiabilité. Et c'est pas tant de vendre du pneu. Donc, eux, ils sont partis sur un modèle, en tout cas pour les poids lourds, de dire, nous, en fait, on vous fournit un pneu, mais on vous fournit surtout le service autour du pneu. On sait quand est-ce qu'il va falloir le changer, et plutôt que de vous facturer un pneu qui va durer plus longtemps, nous, ce qu'on vous facture, c'est la location du pneu, finalement. Le pneu as a service.
En LOA.
Voilà, exactement. ce sont des modèles qui permettent, justement, de maximiser l'usage des ressources qui sont prélevées. Parce qu'après, ce qu'il y a, c'est que Michelin maîtrise aussi toute la phase, en fait, de refabrication, de réutilisation et d'entretien du pneu. Donc, ce n'est pas du pneu neuf, c'est du pneu qui va être ressemelé pour pouvoir avoir une nouvelle vie sur un autre poids lourd.
Ce qui est intéressant, c'est que ça paraît... À la limite, on aurait fait une pause avant que tu amènes la solution. C'était assez terrifiant. J'imagine les réunions qu'ils peuvent avoir où ils se disent, en fait, c'est notre modèle économique d'origine qui est remis en cause c'est ce qu'on doit questionner.
Exactement.
Mais c'est faisable. Ils le font. Et des boîtes comme ça, des entreprises comme celle-ci. Donc, en fait, c'est faisable.
C'est faisable avec du courage. C'est faisable avec du courage parce que t'imagines bien que passer d'un modèle où tu vends des palettes de pneus à tu vends un service qui repose sur de la donnée et il faut inventer toutes les chaînes en fait de logistique arrière pour récupérer les pneus, les remettre et tout ça, l'entretien et tout, ce sont pas les mêmes métiers. Donc oui, c'est faisable avec du courage. Voilà.
Mais c'est intéressant aussi parce que on peut se dire que les nouvelles technologies qui arrivent, par exemple l'intelligence artificielle, au lieu de les greffer sur des modèles anciens, autant les utiliser sur des modèles nouveaux et participer fort et que la bonne question soit, ok, d'abord, avant de regarder, de solliciter l'IA, c'est le grand sujet, me poser, comme tu l'as dit, sur mon modèle, réfléchir à mon modèle et lorsque je m'ouvre des opportunités nouvelles de faire évoluer mon modèle économique pour qu'il ait une visée régénérative, par exemple, de solliciter ce qui existe et ce qui est nouveau autour de moi pour pouvoir le réaliser.
Ouais, et c'est un très bon point, en fait, parce que, tu vois, dans les étapes, en fait, de réflexion par rapport au changement de modèle, d'activité, donc là, on a abordé le problème de la mission, en fait. Quels sont les produits que l'entreprise va proposer dans le futur, mais doit aussi abandonner. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Mais dans ces nouveaux modèles-là, il y a un aspect collaboratif, en fait, qui va être beaucoup plus développé. Il y a beaucoup de modèles, en fait, qui ne marchent pas si tu restes dans une logique de silo et de compétitivité. Et il va falloir développer une approche beaucoup plus collaborative avec ses fournisseurs, bien entendu, mais aussi même se poser la question... Ces entreprises que je considère comme de la compétition dans l'ancien monde peuvent devenir en fait juste des partenaires, des partenaires de collaboration. Et ça, en fait, imaginons par exemple, voilà, on veut réindustrialiser, on veut produire des jeans en France. Ça coûte cher de faire tourner une usine. Et pour qu'une usine soit rentable, en fait, il faut qu'elle puisse tourner de manière assez continue. Et puis, j'ai plein de petites marques qui sont spécialisées sur le Made in France, etc. OK. Mais en fait, dans une logique 19e siècle, elles sont en compétition. OK. Moi, je veux vendre plus que toi. Et je ne vais surtout pas te parler parce que c'est ça la logique en fait, de la compétition. Dans l'économie du donut, c'est de se dire, OK, nous, on poursuit le même objectif qui est de faire des jeans en France. Pour ça, il nous faut un moyen de production. Et ce moyen de production, en fait, va falloir le faire tourner. Mais néanmoins, on est des petites marques isolées les unes des autres. On n'a pas du tout la capacité de faire tourner une usine à nous toutes seules. Par contre, si on se met ensemble, je peux faire tourner l'usine 2 heures pour moi, 2 heures, enfin 2 jours, 2 mois, je m'en fous, je m'en fiche. Et là, arriver à rentabiliser une usine qui est bénéfique pour tout le monde, parce que ça crée forcément des emplois locaux non délocalisables. Ça fait marcher ces entreprises-là et ça leur permet d'aller au bout de leur mission, de dire, nous, on fait du Made in France. Et on produit des produits de qualité localement. Donc, tu vois, c'est vraiment changer cet esprit de vraiment l'économie du 20e siècle versus l'économie du 21e qui nous permettra à tous et toutes de mieux vivre.
Finalement, c'est de se donner une vision, c'est de se donner et s'accorder sur une vision commune. Oui. Qu'on veut changer. C'est aussi, c'est pour ça que l'introduction, c'est pas une introduction, la conversation a été sur le monde d'avant. J'ai voulu la creuser, c'est bien pour bien comprendre pourquoi c'est une aberration, la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Se poser donc une vision,
oui.
Se dire, voilà, en fait, ce que je veux et l'impact que doit avoir mon entreprise, c'est celle-ci.
Oui.
Se poser sur mon modèle et ouvrir un peu les chakras.
Oui.
Être en coopération.
Oui.
Utiliser la nouvelle matière qu'il y a autour de moi, qui est à la fois une matière technologique comme l'intelligence artificielle, enfin des choses qui peuvent aujourd'hui me permettre de faire de participer à cette évolution-là. Et puis un autre sujet, je crois aussi, dont on n'a pas parlé, c'est les gens. Enfin, là, ce que tu dis, la coopération, c'est coopération entre entreprises, il y a des idées de coalition aussi, mais il y a les gens. Les entreprises ont quand même un énorme sujet de talent aujourd'hui.
Oui.
D'une population, d'une génération qui cherche du sens.
Ouais.
Et finalement, est-ce que c'est pas leur premier danger? C'est que si elles ne bougent pas, si elles ne vont pas dans ce chemin-là, elles vont s'isoler de tout, en fait, mais jusqu'à leur consommateur,
ouais.
À la fin.
Oui, oui, absolument. Il y a une demande aussi bien en tant que employé. Enfin, oui, ces personnes-là ont envie de consacrer 8 heures par jour à une entreprise qui donne du sens, en fait, à ses produits et qui a une réflexion, clairement. D'un point de vue de la consommation, de la clientèle, oui, effectivement, les clientes et les clients ont envie aussi d'avoir des produits qui se pose la question, en fait, du respect de ses limites planétaires, de la contribution sociale. C'est sûr. En fait, là, par rapport à ça, je discutais avec Maureen Rousseau, qui est l'ancienne DRH de Google, et, dont on parle dans le livre. Et qui m'expliquait un petit peu les initiatives qui sont prises dans certaines entreprises pour faire vivre des groupes d'employés et leur donner aussi les moyens de s'exprimer et de monter des initiatives à l'intérieur de l'entreprise pour faire vivre la diversité, pour faire vivre aussi, tu vois, des ateliers de prise de conscience, etc. Pas du tout obligatoire, hein. C'est vraiment des choses qui sont faites sur la base du volontariat et puis des valeurs qui sont portées. Mais c'est important pour l'entreprise de d'écouter ça, puisque comme tu le dis, les entreprises qui elles vont rester dans une logique purement de performance financière, finalement, ce sont aussi celles qui performent le moins bien. Et ça, il y a une étude de McKinsey qui se focalisait sur les entreprises à pure visée financière, les entreprises double focale, c'est comme ça qu'ils les appellent, qui se focalisent aussi bien sur les résultats économiques que sur la culture de l'entreprise, et puis des entreprises, elles, qui sont basées beaucoup plus et exclusivement sur l'humain. Bon. Cette étude-là montre que les entreprises double focale, donc qui réfléchissent vraiment à leur modèle d'activité tout en favorisant justement l'épanouissement du personnel à l'intérieur et qui prend en compte vraiment ces considérations sociales et environnementales, vont être beaucoup plus performantes sur le long terme. C'est vraiment ça qui en ressort. Les autres entreprises, alors attention, hein, faut voir comment est mesurée la performance. On reste encore très 20e siècle, hein. Mais néanmoins, ce que ça montre, c'est que ne pas prendre en compte l'air du temps, on va dire, hein, c'est quelque chose qui est très contre-productif à court terme, moyen terme et long terme.
Je crois qu'on a une bonne conclusion ici. Damien, merci beaucoup. Je vous redonne l'ouvrage, Un donut pour tout changer, aux éditions Vibert. Et à l'intérieur, vous avez de manière très pédagogique l'ensemble des points qu'on s'est racontés, et avec des cas et avec des exemples très simples pour prendre le chemin ce chemin et ce dont tu parles et aller vers cette bonne trajectoire. Est-ce que tu veux nous dire un dernier mot?
Oui, bah déjà, je voudrais te remercier, Arnaud, et puis les librairies Mola pour cette occasion de parler d'un donut pour tout changer.
Et Mo, excuse-moi.
Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a plein d'autres ressources à consulter directement sur le site web undonutpourtoutchanger.fr. Vous avez tous les canevas qui sont disponibles en libre accès, ce qui vous permet aussi, juste en suivant le livre, de faire votre propre exercice. C'est vraiment, tout est fait pour que vous puissiez le réaliser vous-même et commencer ce chemin par vous-même.
Merci beaucoup, prenez soin de vous et à très bientôt.
Merci.